Voici les titres du journal.
Le Valais ne possède pas suffisamment d'aires d'accueil pour les gens du voyage. C'est ce qu'affirme le rapport d'une fondation suisse. De son côté, le canton estime qu'il a déjà fait sa part de travail. Irrigation, qualité du sol, maladie de la vigne. Le Valais renforce son pôle de recherche en viticulture et en œnologie. Le but, adapter la production de demain aux défis d'aujourd'hui. Le canton de Vaud consolide la formation pour les plus de 20 ans. Il réunit désormais sous un même toit au gymnase de Chamblande à Puy toutes les formations générales certifiantes pour adultes. Et en tennis, Roger Federer et Belinda Bencic ont parfaitement suggéré leur entrée en lice à Roland-Garros. Hier, les deux Helvètes se sont imposées lors du premier tour des internationaux de France.
Et pour la météo, cet après-midi, un temps bien ensoleillé avec la possibilité tout de même d'avoir des averses ou orages en montagne, voire même sur la Riviera et la plaine du Chablais. Demain, le temps sera plus mitigé. On en parle de cette météo à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Blom. Bonjour Valérie.
Bonjour. Le Valais ne possède pas suffisamment d'aires d'accueil pour les gens du voyage. C'est la fondation Assurer l'avenir des gens du voyage suisse qui le dit. Elle a publié le 18 mai dernier son rapport 2021 dans lequel elle expose les besoins en aires d'accueil dans tout le pays. Il en manquerait actuellement 80 et 90 en Suisse. Dans ce document, la fondation affirme que le Valais devrait créer 4 emplacements, dont une aire pour des séjours de plusieurs mois, ainsi que 3 aires de passage où les nomades ne resteraient que quelques semaines. Les gens du voyage ne constituent une minorité nationale officiellement reconnue par la Confédération et cette fondation a pour mandat de garantir et d'améliorer leurs conditions de vie. Le Valais dispose d'une seule aire d'accueil, celle de Martigny, mais il s'agit d'une aire de transit, c'est-à-dire qu'elle est surtout destinée aux Roms nomades étrangers. Le canton en fait-il donc assez pour accueillir les gens du voyage? On écoute la réponse de Frédéric Favre, chef du département de la sécurité, des institutions et du sport.
Je crois qu'en Valais, on a été assez tôt dans la prise de responsabilité. 1998, la commune de Martigny a offert cette place. Elle est toujours ouverte depuis. Elle va être déplacée. La police cantonale a repris la gestion. Donc, on peut pas alors dire que le Valais ne fait rien. Maintenant, on peut toujours faire mieux. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Mais je crois qu'encore une fois, c'est les gens et les cantons qui ont peut-être même pas fait cette première étape qui doivent la faire en premier lieu. Et puis, ça n'empêche pas, encore une fois, les réflexions qui sont aujourd'hui sur une éventuelle deuxième place en Valais. Là-dessus, on continue le travail. On a effectivement maintenant des réflexions depuis quelques temps sur des lieux où on pourrait imaginer une place de gens du voyage, mais ça c'est aujourd'hui à l'étude.
Frédéric Favre répondait à nos confrères de Rhône FM. Colombey Murat publie des comptes 2020 jugés bons puisqu'il bouge sur un revenu d'1,5 million de francs. Une hausse des rentrées fiscales explique en partie ce bon résultat. La quasi-totalité des investissements prévus par la commune ont été réalisés. Parmi eux figurent entre autres la construction de la nouvelle station d'épuration, la caserne des pompiers effectuée conjointement avec Montet, ainsi que diverses infrastructures routières et modifications des réseaux d'eau. La HESSO Valais-Vallis se met au test de dépistage Covid-19, réalisé par prélèvement salivaire. Ils sont proposés sur tous les sites chaque semaine depuis hier aux collaborateurs. La condition sine qua non pour qu'ils puissent revenir travailler au bureau. L'hôpital du Valais collabore à l'opération. La présence du moustique tigre en Valais reste actuellement cantonnée à la ville de Montet. Les résultats du programme de suivi et de lutte contre cet insecte n'ont pas révélé de nouvelles entrées dans le canton en 2020. À Montet, en revanche, sa zone de propagation s'est étendue depuis la découverte d'un premier spécimen il y a 2 ans. Les mesures déjà en place seront reconduites et intensifiées cette année. La population est invitée à éviter autant que possible les accumulations d'eau temporaires et à signaler tous les cas suspects. Et on reste sur le même sujet, le canton de Vaud enjoint la population à ne pas inviter le moustique tigre à l'apéro. Un message qui se veut toutefois sérieux afin d'éviter la propagation de l'insecte vecteur de maladie. Celui-ci n'est pour l'heure pas présent en terre vaudoise, explique aujourd'hui l'État de Vaud. Il lance toutefois sa campagne de prévention contre l'insecte. Il prie les personnes de signaler toute présence du moustique tigre, si possible en joignant une photo de bonne qualité.
Résistance de la vigne aux maladies et au changement climatique, choix du meilleur cépage, irrigation du domaine et essais sur la qualité du sol.
Toutes ces questions seront étudiées scientifiquement sur le domaine viticole du Grand Brûlé à Lettron. Une convention vient d'être signée entre le Valais et Agroscope, le centre de compétences nationales dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire. Concrètement, le canton met à disposition ses surfaces de Lettron, Châteauneuf, mais aussi sa cave et son laboratoire. Le but, adapter la production de demain aux grands défis d'aujourd'hui. Des défis, la viticulture valaisanne n'en manque pas. Elle qui traverse actuellement une crise et qui voit ses vendanges refusées par des envahisseurs des encaveurs sous l'eau. Alors ce projet pourra-t-il aider aussi à travers cette crise? Réponse de Christophe Derbelay, conseiller en charge de l'économie.
C'est évidemment une aide parce qu'il y a beaucoup de défis sur le plan naturel, sur le plan climatique. Il y a des consommateurs qui ont des nouveaux besoins, qui sont beaucoup plus sensibles à la manière dont on cultive le sol, dont on traite les plantes. Donc on va essayer vraiment d'aider cette viticulture à se transformer et à affronter les défis de demain. La volonté, c'est essentiellement dans la viticulture valaisanne, c'est pas de faire de la quantité. Je crois qu'il y a des pays qui font ça beaucoup mieux que nous et à des coûts moindres. La volonté, c'est d'améliorer la qualité, c'est d'améliorer l'authenticité des vins, la traçabilité. Puis je crois qu'il y a un effort et ça, c'est pas l'affaire directement du canton, mais un effort de vente et de marketing à faire. On a une magnifique cave ouverte, mais on peut encore aller plus loin parce que c'est sûr que si on n'est pas en mesure de vendre plus de 32 millions de litres par année à long terme, eh bien, on a un problème avec des surfaces surnuméraires.
Les données et résultats scientifiques seront transmises aux viticulteurs du canton par la centrale de vulgarisation agricole Agridea. Précision du directeur adjoint Philippe Mikkels.
Notre mission principale, c'est de transmettre et de transférer le savoir scientifique et le savoir légal au niveau du terrain, donc au niveau des producteurs et des agriculteurs, pour que ce soit facilement compréhensible et facilement mis en pratique.
Est-ce qu'il y a des fois des personnes qui peuvent être aussi un peu réfractaires ?
On est tous réfractaires au changement. C'est la nature humaine et donc nous, notre rôle, c'est de faciliter le changement et de convaincre. Et comment on peut convaincre les gens? C'est en étant proche du terrain. Et c'est pour ça que je pense que cette idée d'avoir des stations d'essai et de recherche décentralisées est une très bonne idée.
Un sujet de nos confrères de Rhône FM. Un nouveau Valaisan arrive sous la coupole fédérale. Emmanuel Amos reprend le flambeau au Conseil national de Mathias Reynard, élu au Conseil d'État fin mars. Le socialiste originaire de Ventaune a prêté serment ce matin. Réélu ce printemps au Grand Conseil Valaisan pour une nouvelle législature, Emmanuel Amos a renoncé à cumuler les deux mandats. Il siégeait au législatif cantonal depuis 2013 et il était membre de la Commission de l'économie et de l'énergie. Même en version réduite, le Montreux Jazz Festival va accueillir des grands noms de la musique cet été. Zucchero, Woodkid, Rag'n'Bone Man ou encore Ibrahim Malouf font partie des artistes qui se produiront sur le Lémont le 2 et le 17 juillet. Ils y côtoieront de nouveaux talents et de nombreux artistes suisses dans une programmation d'une grande mixité fidèle à l'identité du festival, indique Mathieu Jatton, le directeur du MJF. Ces artistes livreront pour la plupart des prestations adaptées à la configuration 2021 du MJF, repensée pour répondre aux normes sanitaires. Nous aurons des concerts beaucoup plus intimistes, plus axés sur le jeu musical. C'est une sorte de retour aux sources, estime Mathieu Jatton. Des Suisses seront aussi à l'honneur dans cet écrin, à l'instar du rappeur lausannois Arma Jackson. Une soirée sera également consacrée au trio alémanique, composé de Sophie Unger, Dino Brandao et Faber, qui s'est formé durant le confinement.
Le canton de Vaud consolide la formation pour les adultes.
Il réunit désormais sous un même toit, au gymnase de Chambland d'Appui, toutes les formations générales certifiantes pour adultes. Dès la rentrée d'août, trois filières seront ainsi disponibles dans un même lieu. Une école de culture générale pour adultes, une école de maturité pour adultes et la voie passerelle, à savoir une année préparatoire à l'examen complémentaire ouvrant les portes des hautes écoles. Cette nouveauté est en fait une évolution des fameux cours du soir dispensés depuis plus de 20 ans à Chambland. Aujourd'hui, cette offre s'appelle Gymnase pour adultes et s'adresse aux personnes qui veulent reprendre des études après une expérience professionnelle, qui n'ont pas terminé leur formation initiale ou qui souhaitent bénéficier d'une formation complémentaire. Objectif, avoir les compétences nécessaires pour éviter de se retrouver au chômage. Explication avec la conseillère d'État vaudoise en charge de la formation, Cézla Amarel.
C'est de faire en sorte que les adultes puissent être, disons, autonomes, qu'ils puissent avoir une formation solide et puis qu'ils puissent disposer de l'employabilité qui est requise aujourd'hui sur le marché du travail. Vous le savez, depuis quelques années, on observe tous les chiffres concordent pour dire que plus on est formé, plus, disons, on a des facilités à pouvoir s'insérer dans le marché du travail et faire en sorte de pouvoir continuer sur la durée, puisqu'on parle aujourd'hui d'apprentissage tout au long de la vie, c'est bien dans cet esprit-là.
Actuellement, ce sont près de 500 étudiants qui suivent chaque année les formations proposées au gymnase pour adultes, dont la moitié en voie passerelle. Des personnes suisses, mais aussi étrangères, au chemin de vie bien différent. On retrouve la ministre vaudoise de la formation, Cézla Amarel.
C'est des profils qui sont extrêmement diversifiés. On a évidemment dans les voies passerelles des étudiants qui sont peut-être plus jeunes, qui viennent de finir en fait leur formation professionnelle et qui souhaitent basculer dans une formation générale pour avoir plus de perspectives dans le tertiaire. Et puis du côté de l'école de culture générale, on a des élèves, des étudiants qui sont plutôt trentenaires et qui évidemment sont dans une recherche, disons, plus de formation plus générale. Donc je dirais que c'est surtout des élèves qui ont moins de 40 ans, mais c'est vrai qu'on a mis en place des dispositifs, notamment via MIA, qui est un dispositif justement pour la reconversion professionnelle des plus de 40 ans. Donc si vous voulez, on essaye de tabler sur une offre de formation pour adultes qui soit la plus large possible et qui concerne les 20 et 40 ans et plus, bien sûr.
Les propos recueillis par nos confrères de LFM concernant le taux de réussite. Globalement, 3 élèves sur 10 échouent dans leur cursus de formation gymnase pour adultes. Enfin, sachez que le gymnase du soir, association bénéfice d'une convention avec l'État de Vaud, continuera en parallèle ses activités. Les amateurs de la foire de la Saint-Martin de Vevey devront encore patienter. Au vu des exigences pour lutter contre la propagation du Covid-19, les organisateurs repoussent la manifestation à 2022. Réduire la voilure pour permettre à l'événement de se dérouler le deuxième mardi de novembre n'est pas envisagé, communique aujourd'hui le conseil de la confrérie de la Saint-Martin de Vevey. Le collectif Femmes Valais met les bouchées doubles pour célébrer la grève du 14 juin, dont la première s'est tenue il y a 30 ans. Des événements féministes et artistiques sont prévus toute la semaine prochaine. L'objectif est de donner la parole aux femmes qui vivent, créent, travaillent et militent dans le canton. Des films, livres et contes seront présentés. Le 14 juin, un wagon féministe sera organisé de Sion à Lausanne.
224,7 millions de francs vont être redistribués à l'utilité publique par la loterie romande.
Un montant à la hauteur de l'année précédente, malgré la fermeture d'une partie du réseau de vente pendant plusieurs mois. Pour maintenir le niveau élevé du soutien aux milieux bénéficiaires qui font face à de nombreuses difficultés, le conseil d'administration a décidé d'utiliser une partie des réserves, soit 8,3 millions de francs, qui viennent s'ajouter aux bénéfices d'exploitation. Près de 11 100 élèves étaient scolarisés en école privée dans le canton de Vaud en 2019. Statistique Vaud précise dans sa dernière édition de Numerus que ce nombre est stable depuis 2015, après 4 ans de hausse continue. 60% d'entre eux suivent un programme étranger. Les Suisses représentent au total un tiers des élèves en école privée et privilégient le programme vaudois. Environ 600 élèves font la transition chaque année entre le public et le privé, souvent au niveau du secondaire 1, et autant d'élèves font la transition inverse, souvent en primaire. Un ouvrier de 50 ans a perdu la vie hier à la suite d'un accident de travail à Châtel-Saint-Denis dans le canton de Fribourg. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, une benne remplie de béton suspendue à une grue est tombée sur la victime. Elle a également gravement blessé un autre travailleur. L'homme a été héliporté vers un hôpital. Tout le monde s'accorde sur la nécessité d'ajustements dans le droit de bail. Le Conseil fédéral a prévu dès ce mois des consultations avec les milieux concernés en vue d'une éventuelle révision globale. Le national entend cependant préserver sa capacité d'action dans ce dossier. Les députés ont rejeté aujourd'hui, pardonnant cette voie contre 96 et une abstention, une motion mandatant le Conseil fédéral d'élaborer une révision du droit du bail. La motion interromprait l'activité parlementaire qui vise à avancer au coup par coup.
Un groupe de marcheurs qui entend suivre les traces du climat est parti ce matin des Grisons.
Ces randonneurs prévoient d'effectuer 700 km en 6 semaines pour terminer leur tour de Suisse à Genève le 12 juillet. Les marcheurs entendent donner une autre couleur que celle du catastrophisme au combat pour la sauvegarde du climat. Ils veulent proposer des solutions et convaincre que le changement est possible. Parmi les marcheurs, la biologiste valaisanne désormais enseignante à Neuchâtel, Lucie Viguet.
C'est une démarche assez différente de ce que font ces jeunes, c'est d'ailleurs très intéressant, très bien. Notre objectif durant ces 700 km à pied à travers la Suisse, donc 6 semaines, c'est d'aller vers les gens. Pas seulement rassembler les gens, mais aller vers les gens, aller vers les projets innovateurs au niveau du climat, pour l'adaptation au climat, pour un mode de vie plus écologique. Il y a de l'architecture, il y a l'agriculture, il y a le monde politique, mais aussi la recherche, il y a le tourisme, l'économie. Vous voyez, c'est vaste l'implication des changements climatiques sur notre société.
Quelle différence il faut faire entre votre action à vous et puis celle des activistes du climat ?
C'est une démarche en fait assez assez constructive, d'aller vers les gens, pas seulement de dire ah ben il y a des problèmes, le changement climatique est là, mais quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que pensent les gens, comment ils ressentent la situation, qu'est-ce qu'ils veulent faire, les adaptations qu'on va devoir faire, les progrès qu'on va devoir faire.
Lucie Viguet répondait à notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin. La version francophone du Blick est officiellement en ligne. Pour son lancement, le site va notamment publier aujourd'hui une double interview des conseillers fédéraux Karine Keller-Souter et Alain Berset sur l'importance du multilinguisme en Suisse. Basé à Lausanne, le Blick francophone emploie 20 journalistes avec Michel Jeanneret comme rédacteur en chef. Les équipes qui ont déjà commencé en avril à produire des contenus pour les réseaux sociaux sont réparties en trois domaines. L'Investigative Lab pour les enquêtes sur la Suisse romande, l'Editing Lab pour le traitement des traductions et le Creative Lab pour l'élaboration de formats créatifs, par exemple des vidéos, des podcasts, des newsletters et des sujets sur les réseaux sociaux. Après Watson en mars, Blick est le deuxième site d'information à débarquer cette année en Suisse romande. Les deux nouveaux acteurs entrent notamment en concurrence avec les sites du groupe Tamedia, 20 minutes et lematin.ch, qui ont aussi renforcé leurs équipes ces dernières semaines. Les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail pour les entreprises touchées par la pandémie font l'objet d'un nombre croissant d'abus. Par la voix de son directeur sur les ondes de la radio SRF, le contrôle fédéral des finances s'est montré préoccupé par la situation. Son directeur Michel Huissou s'est également dit frappé par le fait qu'il y ait eu si peu de vérifications. Le secrétariat d'État à l'économie a réagi à cette accusation en déclarant à Keystone ATS que les contrôles avaient lieu comme prévu et étaient en cours d'extension. Les inspections sont cependant plus difficiles car de nombreuses personnes concernées par le chômage partiel sont en télétravail. Selon les statistiques du SECO, 777 cas d'abus ont été signalés.
La Suisse est du même avis que l'Union européenne, la Grande-Bretagne ou encore la Norvège et la Corée du Sud.
Il faut plus de temps pour analyser les propositions visant à renoncer aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus. Ces pays ont exprimé hier leurs réserves lors d'une réunion informelle de l'Organisation mondiale du commerce sur le sujet. La campagne pour la levée des brevets est menée par l'Afrique du Sud et l'Inde. Ils doivent obtenir le soutien par le consensus de tous les 164 membres de l'OMC. À l'étranger, une décennie de guerre en Syrie a fait près d'un demi-million de morts, a annoncé aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, dans un nouveau bilan incluant plus de 100 000 victimes dont le décès vient d'être confirmé par l'organisation. L'écrasante majorité des décès qui vient d'être confirmée s'étale entre fin 2012 et fin 2015, a précisé à l'AFP le directeur de l'Observatoire, Rami Abdelrahman. Au total, depuis 2011, le conflit syrien a fait près de 500 000 morts, d'après l'Observatoire. Fini les critères d'âge ou d'état de santé, toute la population majeure de France est désormais éligible à la vaccination contre le Covid-19. Une étape clé pour éviter un rebond de l'épidémie alors que les restrictions s'allègent peu à peu dans le pays. Les candidats doivent cependant s'armer de patience. Les réservations, qui ont démarré jeudi dernier, arrivent progressivement sur les plateformes internet spécialisées, avertit hier le ministre de la Santé Olivier Véran. 76,7 millions de doses sont attendues pour ce mois de juin.
Le Pérou a réévalué le nombre de personnes mortes du Covid-19 sur son sol.
Le bilan est passé de 69 000 à 180 000. Sur les recommandations d'un conseil technique, les critères d'enregistrement des décès ont été modifiés. L'objectif est d'avoir des chiffres plus exhaustifs et qui seront d'une grande utilité pour la gestion de la pandémie, a expliqué le numéro 2 du gouvernement, Violeta Bermudez. Et au large du Bangladesh, des milliers de réfugiés Rohingyas ont profité de la visite de représentants des Nations Unies hier pour dénoncer leurs conditions de vie sur Bashar Shah. D'après la police, quelques 4000 personnes ont participé au mouvement de protestation. Elle assure que des vitres d'entrepôt ont été brisées par des pierres et que certains membres des forces de l'ordre ont été blessés. Un réfugié militant international des droits de l'homme indique, lui, que des matraques ont été utilisées pour disperser les manifestants. Certains auraient été blessés, une affirmation rejetée par la police. Dans un communiqué, l'agence onusienne s'est déclarée profondément préoccupée d'apprendre que des réfugiés ont été blessés au cours des événements sur l'île. Cette délégation visitera des camps de réfugiés aujourd'hui avant de retourner à Dhaka, capitale du Bangladesh, pour rencontrer les hauts responsables du gouvernement. En football, Arturo Vidal a été hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19. Le milieu chilien ratera ainsi le match prévu jeudi contre l'Argentine pour la qualification à la Coupe du Monde. L'équipe médicale de la formation sud-américaine avait rapporté dans un premier temps que le joueur de 34 ans ne s'entraînait pas et avait été séparé du reste de l'équipe après l'apparition de symptômes. Mais un nouveau communiqué indique qu'il a été hospitalisé et isolé du groupe pendant plus de 72 heures en raison d'une amygdalite pleurale sévère.
En tennis, Roger Federer n'a pas connu de problème lors de son entrée en lice à Roland-Garros.
Le Balois a parfaitement négocié son retour en Grand Chelem, 487 jours après sa demi-finale de l'Open d'Australie perdue face à Novak Djokovic. Hier, le joueur de 39 ans a dominé Denis Istomin 6-2, 6-4, 6-3 au premier tour des internationaux de France. Battu à Genève 13 jours plus tôt, Roger Federer a visiblement su mettre à profit les entraînements auxquels il s'est astreint après sa défaite face à Pablo Andujar au Parc des Eaux Vives. Lors de l'interview, le numéro 8 mondial était forcément satisfait de ce retour gagnant.
Voilà, je sentais que j'ai vite contrôlé les choses, j'ai vite ressenti que je pouvais gagner le point de multiples façons. Et après, tu peux te prendre plaisir, tu peux monter au filet, tu peux faire un peu de serve volley, des amortis, prendre un peu de risques de temps en temps, garder les balles courtes ou tu veux rallonger les rallyes. Bah, je peux vraiment tout choisir. Alors c'est pour ça, je pense que l'adversaire, c'était sorte idéal pour un premier tour. Je sais que le deuxième, ça va être complètement autre chose. On prend ça tous les jours et en plus, je crois pas qu'il a eu balle de break non plus. Alors, sur mes jeux de service, j'étais vraiment très concentré. J'ai bien servi, surtout au premier set. Et ça, c'était toujours quelque chose qui marchait bien pour moi. À Doha ou même à Genève, j'ai toujours bien servi. Et ça continue, en fait, la même façon ici à Paris. Alors, ça, c'est bien.
Chez les dames, Belinda Bencic a également cueilli un succès probant hier. La Saint-Galloise s'est imposée 6-0, 6-3 devant l'Argentine Nadia Podoroska. Une victoire express qui a forcément fait les affaires de Belinda Bencic en ce début de tournoi. Écoutez ses explications.
Ich habe mich sehr gut gefühlt auf dem Platz. Ich natürlich vor der ersten Runde ist mir immer ein bisschen so nerveux.
Je me suis très bien sentie sur le court, naturellement avant le premier tour. On est toujours un peu nerveuse, on ne sait pas comment on va jouer. Mais dès que je suis arrivée sur le court, tout s'est méga bien passé. Je savais ce que j'avais à faire, mais je n'aurais jamais pensé que ça allait être si facile. Dans le premier set, j'ai vraiment pas fait d'erreur, je me sentais vraiment bien. Et oui, 6-0, c'est un résultat qui n'est pas facile à gérer quand on rentre dans le deuxième set. Il faut tout de suite gagner le premier jeu d'entrée, continuer dans le même sens pour que son adversaire ne revienne pas au score, ce que j'ai bien réussi jusqu'à la fin du deuxième set, car je me suis vraiment bien sentie.
Und ja, ich habe das eigentlich dann gut gemeistert, dann auch am Schluss vom zweiten und habe mich eigentlich generell wirklich sehr gut gefühlt.
Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Roland-Garros, Hélène Scone-Smith. Au prochain tour, Roger Federer retrouvera le Croate Marin Cilic dès demain à Paris. De son côté, Belinda Bencic sera opposée à la Russe Daria Kazakhinina.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Art Optique, lunettes, lentilles et solaires. Aroptique.ch.
Le temps est bien ensoleillé en ce début d'après-midi. Il va se poursuivre ce temps ensoleillé, peut-être un petit peu moins ensoleillé au fil des heures, puisque Météo Suisse nous annonce le développement de cumulus, suivi de quelques averses ou orages en montagne, pouvant localement déborder sur la Riviera et la plaine du Chablais en fin de journée. Et en soirée, il va faire au maximum 24 degrés en plaine, 22 à 1000 mètres. Pour demain, c'est un temps plutôt changeant, avec une nébulosité changeante à forte, avec quelques éclaircies, quelques averses aussi, parfois orageuses en cours de journée. Il va faire demain au minimum 13 degrés en plaine, 22 l'après-midi, et puis pour les 1000 mètres, c'est minimum 10 degrés d'attendu le matin et 20 degrés l'après-midi. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.